Roméo Gribingi, bonjour.
Bonjour, monsieur Senapaï.
L'Agence centrafricaine de stockage des prix des produits pétroliers, ACRP, n'est plus opérationnelle en Centrafrique. Cette structure de l'État joue un rôle crucial dans le secteur d'hydrocarbures dans le pays. Quelle solution pour combler le vide?
Déjà, je vous remercie du fait que vous me tendez aujourd'hui votre micro. L'ACRP, qui est donc une structure qui dépend du secteur parapublic, qui a été mise en place par la volonté du gouvernement à l'époque, en 2007, visant donc à réguler le secteur pétrolier. Effectivement, aujourd'hui, il y a un vide, comme vous l'avez dit, mais des dispositions ont été prises par le gouvernement pour pallier à ce vide. Et donc, parmi ces dispositions, je rappelle, je parle du décret portant promulgation de la loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée. Dans son article 2, ce décret dit bien que donc les taxes et redevances vont être collectées et versées directement sur le compte unique du Trésor public. Donc ça, c'est une des dispositions. L'autre disposition qui va être prise, toujours dans l'article 2 de cette même loi, qui dit qu'un autre arrêté du ministère des Finances va être pris pour qu'on mette en place en fait un comité interministériel qui va donc évaluer le patrimoine de l'ACRP. Donc quand je parle de patrimoine, on inclut tout ce qui est créances, on inclut les arriérés de salaire, les droits légaux des salariés de ces agences et fonds. Ce n'est pas une particularité de l'ACRP, mais des dispositions ont été prises par le gouvernement pour que cette transition soit gérée en toute transparence et en toute collégialité.
Déjà, le personnel cumule 3 mois d'arrêt de salaire.
Oui, effectivement, ça c'est des informations qui nous parviennent. Vous savez, entre le temps d'application et le temps que les structures soient mises en place ou que l'État reprenne la main pour un meilleur suivi, il y a toujours un petit temps de latence, mais le nécessaire sera fait de sorte que ces arriérés soient absorbés dans un meilleur délai.
La vente illégale des produits pétroliers se propage davantage à Bangui et dans certaines villes de l'intérieur du pays. En cette période transitoire, comment la régulation va se faire au moment où le personnel de l'ACRP déployé en province n'est plus en fonction?
Comme je l'ai dit ici, des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement. Il faut savoir que selon ce qui a été décidé ou bien discuté au niveau de l'Assemblée nationale, il était question que pour le personnel de l'ACRP ou de certaines agences et fonds, tous ceux qui sont détachés puissent regagner leur département de tutelle et que les contractuels puissent être accompagnés pour voir comment on pourra les indemniser par la suite. Donc tout cela est en train d'être fait de manière progressive. On peut constater qu'il y a des manquements, tels que vous l'avez souligné, mais des dispositions vont être prises assez rapidement pour permettre à l'État de contrôler ce secteur-là.
Après la suspension de certaines sociétés d'État, quels sont les effets financiers générés par le gouvernement?
Je dirais pas qu'il y ait des manques à gagner pour l'État. Je l'ai bien précisé, le mécanisme aujourd'hui, c'est d'abord récupérer ces personnels qui sont détachés, qui vont regagner leur ministère de tutelle, les contractuels qui vont être accompagnés. Par exemple, je prends le cas de la CRP, il se peut qu'une direction soit créé et rattaché directement au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Donc, il va continuer à faire le travail que faisait l'ACRP pour déjà maîtriser, contrôler le secteur. Et ensuite, c'est le gouvernement qui décidera de ce qui adviendra pour la suite.
Hier, nos partenaires financiers et techniques ont exigé la création de certaines sociétés d'État. Aujourd'hui, ces mêmes partenaires ont demandé la suppression de ces offices publics. Est-ce que le gouvernement est en train de faire du surplace?
Le gouvernement ne fait pas du surplace. Je rappelle que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent et donnent des avis techniques. La République centrafricaine est un État souverain qui a un gouvernement rempli de technocrates, donc ils sont à même aussi de mener des réflexions et faire des propositions visant à promouvoir les différents secteurs en fonction des départements. La CRP a été créée selon la volonté du gouvernement de l'époque, et ça pour réguler le secteur pétrolier. Pourquoi? Parce que après la privatisation de la Petroca, qui était une société d'État aussi, cela s'est fait, on peut le dire, dans la précipitation. Des dispositions n'ont pas été prises concernant la collecte des taxes pétrolières. Jusqu'à 2006, l'État continuait à subventionner les produits pétroliers à la pompe. Et donc, suite à des réflexions et travail qui a été fait par le gouvernement de l'époque, avec l'appui des partenaires financiers, il a été décidé de la mise en place d'une agence de régulation du secteur pétrolier, ce qui a été fait pour la création de la CRP. Donc, les partenaires techniques et financiers ne nous imposent rien. Ils donnent des avis et le gouvernement réfléchit, voit en termes de faisabilité si on doit les appliquer ou pas. Ce qui a été fait.
Mais récemment, c'était une exigence du FMI, selon le ministre qui défendait le dossier au nom du gouvernement.
C'était pas une exigence, c'est une des conditionnalités. C'est pour ça que je précise. Le FMI ou la Banque mondiale ne nous impose pas.
Monsieur Gribingui, la procédure de privatisation de Centrapalme est aussi en cours. Où en sommes-nous avec ce projet?
J'avais indiqué à la presse qu'il y a un avis à manifestation d'intérêt qui a été lancé en vue d'enregistrer les offres des potentiels repreneurs pour la privatisation de la Centrapalme. Aujourd'hui, cet avis, il est toujours d'actualité puisque ça court jusqu'au 14 décembre 2021. Donc, je profite de votre micro pour lancer un vibrant appel à tous les Centrafricains qui ont les moyens, qui peuvent aussi souscrire à ce capital, pouvant nous permettre de relever la Centrapalme. Je précise que dans le cadre de cette privatisation, c'est un appel d'offres négocié. Un appel d'offres, c'est-à-dire que le capital est bien reparti. Donc, il y a une part qui revient aux repreneurs stratégiques, il y a une part qui reviendra à l'État, mais surtout, il y a une part qui revient au privé centrafricain. Donc, dans les prochains jours, nous allons faire un travail sur la communication visant à sensibiliser la population, largement le public, pour ceux qui ont les moyens à souscrire donc au capital de la Centrapalme. Donc, cette procédure suit son cours.
Mais est-ce que le gouvernement a réuni toutes les conditions nécessaires pour la privatisation de cette société qui faisait hier la fierté de la République centrafricaine?
Je reprécise ici que, en ma qualité de ministre contrôleur général du secteur parapublic, donc je préside un comité de privatisation qui est été mise en place par arrêté signé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, un travail a été fait, c'est un travail technique parce que ce comité regorge en son sein donc des techniciens qui viennent du ministère de l'Agriculture, du ministère des Finances, un inspecteur d'État. Donc un travail technique a été fait. Le patrimoine de la Centrapalme a été évalué et je l'ai déjà dit, aujourd'hui on a un titre foncier qui est évalué à 34 milliards de francs CFA. On a évalué donc tout ce qui est créance au niveau des banques. On a évalué également tout ce qui est arriéré de salaire. Donc tout ça, ça se fait en concertation avec les délégués du personnel qui aujourd'hui n'ont qu'un seul vœu, c'est de voir la Centrapalme privatisée.
La Socatel, une autre société d'État en voie de disparition, quelle solution pour envisager sauver l'opérateur historique de téléphonie mobile en Centrafrique?
La Socatel fait partie des structures paraétatiques qui aujourd'hui est en grande difficulté de gestion. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les délégués du personnel, également les administrateurs et les dirigeants. Nous sommes convenus de nous retrouver à chaque fois cela sera nécessaire dans un cadre de dialogue franc et sincère. C'est pareil, c'est le même modèle. La loi nous permet aujourd'hui, nous au niveau du contrôle général, d'apprécier et d'évaluer les performances des structures qui sont sous ma tutelle et aussi d'engager des réformes quand cela est nécessaire et au pire des cas, engager des actions en vue de privatiser les structures qui battent des ailes pour l'instant. Donc la Socatel fait partie. Il y a une étude qui est en cours actuellement pour voir comment soumettre au premier chef du gouvernement l'idée de mettre en place également un comité de privatisation pour la Socatel qui va rentrer totalement en ligne de compte de ce qu'on appelle la promotion du PPP, donc le partenariat public-privé qui nous permet, à l'exemple de la Centrapalme, de pouvoir privatiser également la Socatel ou autres structures en difficulté de gestion.
Mais monsieur le ministre, sur nos ondes, certains cadres de la Socatel ont décrié le fait que le patrimoine de la Socatel est en train d'être bradé par certains dignitaires. À qui la faute?
C'est des informations aujourd'hui que je ne peux malheureusement pas commenter puisque je n'ai pas tous les éléments. Le personnel de la Socatel aujourd'hui est mieux placé peut-être pour...
C'est le délégué du syndicat qui l'a dit.
C'est le délégué du syndicat, mais ces informations ne sont pas encore parvenues.
Mais le DG était présent.
Alors nous, en tant que gendarmes du secteur parapublic, on est preneur de ces genres d'informations. Donc il suffit que ces délégués ou bien le directeur général saisissent officiellement le contrôle général qui va étudier, analyser, va écouter les différents acteurs et fera porter ce message aux hautes autorités de la République pour que des actions soient menées.
Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif à court, long et moyen terme sur ce département concernant les offices parapublics?
Dans un premier temps, depuis que j'ai pris fonction il y a de cela 3 mois, j'avais fait ce choix donc d'un management de proximité qui m'a permis de faire une descente dans toutes les structures du secteur parapublic. L'idée, c'est déjà faire un état des lieux, mais aussi écouter nos compatriotes qui travaillent dans ces différentes structures afin de toucher du doigt les réalités qu'il traverse. Et donc, à l'issue, je l'avais déjà annoncé, un document stratégique va être rédigé. C'est déjà en cours de finalisation et est remis directement au premier chef du gouvernement. La deuxième étape qui visera donc à accompagner ces dirigeants et administrateurs des différentes structures, les accompagner, ça passe forcément par une pédagogie visant à leur inculquer les notions donc de performance et aussi d'une gestion saine de ces différentes structures.
Roméo Kribingui, merci.
Je vous remercie, monsieur Senapai.